À voix nue. Pascal Vernus s'entretient avec Madame Christiane Desroches de Bleucourt. Aujourd'hui, à Tchepsout. Madame de Bleucourt, vous êtes une femme égyptologue et dans votre carrière, vous êtes particulièrement intéressée aux femmes de l'Égypte ancienne. La plus fameuse, peut-être, c'est la reine Hatshepsut. Voulez-vous bien nous parler un peu de cette extraordinaire personne que fut Hatshepsut ?
De toute façon, si je me suis attachée à la personnalité de la reine Hatshepsut, c'est pas parce que c'était une femme. Pas du tout. C'était un personnage. Et par hasard, c'était une femme. Pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai peut-être eu tort, puisqu'il y a des pays et des périodes pendant lesquelles les femmes n'ont pas été très bien vues. Mais le fait est que j'en ai pas tenu compte du tout. Alors, si je me suis attachée à certaines femmes, c'est parce que, évidemment, elles sont assez exceptionnelles dans la masse. Elles pointent. Elles sortent au-dessus du niveau moyen. C'est sûr. Mais dans ce pays d'Afrique, où on dit toujours que la femme n'est pas épaulée par l'homme, qu'elle n'est pas toujours libre, qu'elle n'a pas d'éducation dans l'Antiquité. On se trompe, naturellement. Tout le monde pourrait dire que la femme ne tient pas une place énorme. Or, si on se penche un peu sur l'histoire ancienne, on s'aperçoit qu'il y a eu des femmes qui ont marqué d'une façon remarquable leur période. Et en ce qui concerne l'Égypte, à mon avis, la plus charmante, la plus délicieuse, la plus élégante, celle qui appartient à une période à la mode, qui est restée à la mode, quoi qu'il en soit, c'est celle qu'on a appelée Hatshepsut. Quand elle est née, cette petite fille, qui était une petite princesse, mais on ne savait pas ce qu'elle allait devenir, sa mère, voyant sa petite Troie rose de bébé heureux qui venait de découvrir ce triste monde, a dit « Hatshepsut ». « Quoi ?» a dit le roi, son père, Thoutmôsis Ier. « Qu'est-ce que tu dis, Hatshepsut ?» Elle a un avant remarquable, c'est-à-dire une belle Troie, si vous voulez. Le bébé était beau. Alors, il avait dit Hatshepsut. Son devant est magnifique. C'était gentil, c'était le père qui avait dit ça. Le nom est resté. Et elle s'appelait Hatshepsut, ce qui donne Hatshepsut. Elle porte bien son nom. Alors, qu'est-il arrivé à cette petite fille ? Bah, elle ne devait pas régner. Elle aurait dû rester dans l'ombre, à côté d'un demi-frère à elle, qui avait pour nom Thoutmôsis le second, qui devait être un peu dégénéré, qui n'a pas dû vivre très 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 longtemps, et qui était un personnage un peu falot. Mais enfin, il était un des princes héritiers, et elle n'était que la troisième. Elle est quand même restée à la cour comme princesse héritière, et elle a très vite gagné une première place en épousant ce demi-frère que l'on a appelé Thoutmôsis le second et qui était un personnage très falot et qui a disparu dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Voilà le début d'Hatshepsut.
Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame ? Parce qu'elle a eu un destin fabuleux.
Oui, quoi qu'il en soit fabuleux. Bah, c'était une princesse que l'on considérait comme fille, à ce moment-là, fille aînée du roi, Thoutmôsis Ier, et on allait lui conférer la charge royale la plus importante. Elle avait reçu une éducation de prince. Et elle le méritait. Elle avait des précepteurs qui étaient des hommes assez âgés, mais très érudits. Et ce que l'on sait de son entourage prouve qu'elle a reçu des leçons de mathématiques, d'astronomie, de diplomatie, de plusieurs langues. Elle devait parler et comprendre le hittite et le babylonien. C'est tout de même pas mal pour une petite princesse. Donc elle est devenue une princesse remarquablement préparée à la couronne, très érudite, et mariée malheureusement à un demi-frère assez dégénéré, Thoutmôsis le second. Elle a dû avoir beaucoup de difficultés avec ce prince qui devait être difficile à vivre, probablement très peu intelligent, probablement un peu infirme, peut-être. Et elle a mis toute son énergie à encadrer l'éducation de son demi-frère, un certain Thoutmôsis le troisième, pour en faire un futur pharaon. Voilà le rôle de la reine. Mais comme ce futur pharaon était encore très jeune et qu'elle était une princesse dynamique au possible, avec une poigne de fer, tout en ayant le charme d'une femme, très délicate, Hatshepsut est devenue une princesse adorable qui a vécu à la cour de Thèbes à côté de Thoutmôsis Ier et son père, jusqu'à ce que le père décède, à côté d'un époux falot dont elle ne tenait pas très bien compte, et d'un demi-frère, cousin, on ne sait pas quoi, qui est devenu Thoutmôsis le troisième. Voilà l'origine d'Hatshepsut.
Quelles sont les circonstances qui l'ont amené à prendre la réalité du pouvoir? Je dis la réalité du pouvoir parce que, nominalement, Thoutmôsis III est resté pharaon. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis?
Thoutmôsis III était trop jeune. Thoutmôsis le troisième, qui avait reçu ce nom en troisième, était un jeune prince qui était beaucoup plus jeune que Thoutmôsis Ier et qui dominait Thoutmôsis II, qui était à moitié dégénéré. Donc, elle a eu des précepteurs qui lui ont donné une éducation d'homme, d'abord. Ça se sent, ça se voit, ça se devine. Ce qui fait que lorsque elle a été en âge de monter sur le trône, non, il y avait encore Thoutmôsis Ier. Quand Thoutmôsis Ier est mort, elle pouvait régner en essayant de supplanter la présence phallo de Thoutmôsis II, qui était très peu de choses. Alors, je crois que ça n'a pas été très difficile. Il y a dû avoir des complots de palais. On sent qu'il y a eu des complots de palais, il y a eu les partisans de Thoutmôsis II, etc. Mais je crois qu'elle y est arrivée très vite. Et elle est venue la grande pharaone.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on résume la situation. Thoutmôsis III est le pharaon officiel, mais il est trop jeune. C'est Hatshepsut qui va prendre la réalité du pouvoir.
Ah, elle prend le pouvoir.
Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses réalisations?
Ce qu'elle fait, eh bien, elle agit comme un homme, sans s'imposer. Ça lui paraît tout naturel. Comme son demi-frère est un peu demeuré, elle prend toutes les initiatives avec beaucoup de discrétion. Mais elle sait très bien y faire. Elle se faufile, non pas comme un serpent, faut pas exagérer, mais elle se faufile comme une femme humble, non pas soumise, mais discrète. Et en fait, elle prend tous les rênes du pouvoir, aidée en cela par un homme extrêmement astucieux, qui, paraît-il, sans qu'il n'en ait le titre, était architecte. Mais je crois qu'à cette époque-là, un architecte était celui qui non seulement était capable de faire des calculs et d'ériger des monuments, mais de régler beaucoup de problèmes. Et cet architecte s'appelait Sen-Enmut, d'une famille de petits bourgeois thébains, mais très intelligent, très cultivé, et qui est devenu très vite le conseiller de la jeune Hatshepsut, qui étant elle-même extrêmement intelligente et très cultivée, a donné des instructions à Sen-Enmut pour qu'il continue de son côté à être l'homme le plus influent du pays par sa sagesse, par ses connaissances, par la direction qu'il a donnée au pays, parce que Sen-Enmut a été en même temps non pas un grand vizir, mais un grand ministre, un très grand ministre. Et elle a très bien su le charger de cela sans trop le laisser voir. C'est ça qui est très étonnant. Alors en fait, le pays, à la disparition de Thoutmôsis Ier, qui était devenu un très vieux roi, était dans les mains d'une charmante femme qui se disait princesse, femme de Pharaon, et Pharaon aussi, puisqu'elle avait le titre. Ce qui fait qu'elle tenait le pays avec l'aide d'un homme encore plus astucieux qu'elle n'était, le fameux Sen-Enmut. Conseiller d'Hatshepsut, il avait compris que cette femme était pleine de talent, mais qu'il fallait l'aider. Et dans l'ombre, enfin une ombre, il a existé, hein, qu'il fallait l'aider tout en étant à côté d'elle pour qu'elle arrive à être un vrai souverain. Et Sen-Enmut a travaillé dans l'ombre et une ombre dense à côté d'Hatshepsut pour en faire un vrai pharaon. Elle a été le pharaon de l'Égypte sans vraiment jamais l'avoir été. Parce qu'elle a eu Sen-Enmut à côté d'elle qui l'a mise en place. Voilà. Bon, ce sont des calculs très curieux.
Oui, elle n'a pas été pharaon dans la mesure où elle a pris le cartouche, mais les datations ont toujours été faites d'après celles de Thoutmôsis III.
Oui, ah ben oui, toujours rester fidèle au pharaon jusqu'à une certaine époque, parce qu'il y a tout de même une époque où Thoutmôsis III est devenu un grand pharaon, mais Thoutmôsis II était un pauvre falot. Alors, ils ont très bien su jouer le jeu, hein, les deux là.
Alors la réalisation majeure d'Hatshepsut, c'est évidemment merveille que tous les touristes admirent, le temple de Deir el-Bahari. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Il est évident que cette femme devait avoir un instinct extraordinaire d'artiste. Ce qu'on pourrait dire, un architecte qui s'ignorait. Elle aimait les monuments et elle les a presque fabriqués dans son esprit avant qu'il ne soit construit grâce à Sen-Enmut, son grand architecte, parce qu'elle adorait les monuments et elle les concevait. Elle a conçu des monuments absolument uniques. Elle a conçu même des colonnes et des piliers composites qu'on n'a trouvé qu'à cette époque, fabriqués avec des éléments floraux, architecturaux, qui ont apparu sous le règne de la reine et qui ont disparu sous son règne. C'était une créatrice. Elle créait des formes. Et le temple de Deir el-Bahari qu'elle a fabriqué, qu'elle a fait faire, à l'assaut de la montagne Thébaine, c'est extraordinaire. On a l'impression que le temple est un escalier qui monte à l'assaut de la Seine. Or, en fait, c'est simplement la base d'un temple. Ça, c'est Hatshepsut. Elle avait un génie architectural. Et à côté d'elle, il est évident que celui qu'on a appelé son architecte, qui n'a jamais été architecte, Sen-Enmut, devait être un type de très grand talent. Pas d'autre mot.
Dans ce temple merveilleux de Deir el-Bahari, il y a une scène qui a frappé les imaginations. C'est la scène de la théogamie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la théogamie et pourquoi Hatshepsut a particulièrement veillé à faire reproduire cette scène dans son temple ?
Oui, ça devait exister depuis très longtemps. Dans la religion égyptienne, il a toujours été dit que Pharaon était le fils d'un dieu et de la reine. Donc, le dieu s'était faufilé dans la couche de la reine à un moment donné pour mettre au monde le futur Pharaon. C'était dans la tradition et c'est même dans les légendes de l'époque des pyramides. Il est évident que ce n'est pas du temps d'Hatshepsut, mais Hatshepsut a repris la légende et elle l'a sublimée. Elle l'a sublimée grâce à deux personnages qui étaient elle et Amon. Amon, c'était le dieu dynastique. Amon qui veut dire le caché. Alors, elle a œuvré dans ce sens, dans le sens de la religion. Elle a donné une emphase très importante à l'entité du dieu Amon qui veut dire le caché. C'est le créateur. Et elle en a fait, pour l'époque, le grand dieu dynastique qui dépassait tous les autres, qui n'étaient que des serviteurs. Et elle a créé et fondé en l'honneur de cet Amon certains monuments grandioses, dont celui de Deir il-Bahari.
Mais l'histoire de la théogamie, qu'est-ce que ça raconte exactement ? Est-ce que vous pouvez résumer ce qui se passe ?
Elle a utilisé une légende. C'est plus qu'une légende, un usage. Dès l'Ancien Empire, dès l'époque des pyramides, les pharaons étaient censés naître des amours du dieu et de la reine. Donc, à l'époque du Nouvel Empire, ça existait. Elle a voulu souligner avec une emphase exceptionnelle le fait que les souverains de son époque avaient été engendrés par Amon.
Dans le temple de Deir el-Bahari, il y a donc la scène de la théogamie, le mariage divin, mais il y a aussi d'autres scènes qui retiennent l'attention des visiteurs et qui sont très fameuses. Ce sont les scènes de l'expédition à Punt. Ah, vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe
au pays de Punt ? Oh là, c'est formidable. Les Égyptiens n'ont jamais été des grands voyageurs. D'abord, ils n'aimaient pas la mer, pour commencer. Vous n'avez jamais vu, à l'époque des pharaons classiques, une expédition de bateaux maritimes qui allait être lancé sur la Méditerranée. Jamais les Égyptiens tournaient le dos à l'eau salée. Ils n'aimaient pas l'eau salée parce que c'était la liqueur de Seth. C'était le liquide du démon, du diable, si vous voulez. Donc, les Égyptiens préféraient partir en expédition dans ce fameux pays de Punt, tout à fait au sud du Soudan, plutôt que de prendre la Méditerranée. Ils n'ont jamais utilisé une embarcation pour traverser la Méditerranée et aller en Crète. Jamais. Ça ne les intéressait pas. Alors, ils sont, ça on le savait, ils s'orientaient vers le sud. Ils s'orientaient vers le sud parce que l'étoile Sotis apparaissait du sud et elle était la protectrice et la créatrice de l'Égypte. Mais à part cela, ils s'orientaient vers le sud, parce que c'est le sud qui comptait pour eux.
Mais alors, ce pays de Punt, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que les Égyptiens allaient y chercher ?
Eh bien justement, le pays de Punt est un pays qui borde le golfe Persique. Donc, il borde... Il forme les deux côtés d'une terre qui est un pays, si vous voulez, un pays qui entoure une espèce de pays qui est, si vous voulez, formé des c'est difficile à expliquer, des deux côtés de la mer Rouge, pour les Égyptiens, la terre qui était de côté de leur, était un pays qui leur était familier, plus familier que tout autre pays. Et quand ils traversaient la mer Rouge, c'était soit pour aller vers des petits îlots qui étaient en pleine mer Rouge, ou d'aller alors de l'autre côté, dans le Proche-Orient, qui était un pays tout de même qui leur était quand même un peu étranger, mais où des expéditions se faisaient. Et des expéditions très importantes. Alors, l'Égyptien, c'est la mer Rouge qu'il préférait. Parce que la mer Rouge, on pouvait la traverser, on pouvait la voir de l'autre côté. Enfin, ils avaient des accointances de ce côté-là.
Le pays de Punt, quelles étaient ses ressources? Qu'est-ce que les Égyptiens y cherchaient?
Il y avait, des deux côtés de la mer Rouge, une rive égyptienne, et l'autre côté, une rive étrangère d'un pays qu'ils ont appelé le pays de Punt. Un pays qui fournissait les onguents et les senteurs les plus profondes et les plus étourdissantes. C'était le pays des encens, parce qu'il y a eu plusieurs sortes de gommes arabiques, n'est-ce pas ?
Le pays de Punt avait des habitants. Ah. Et à Deir el-Bahri, les Égyptiens ont représenté ces habitants.
La reine a organisé une expédition au pays de Punt. Ses voyageurs lui avaient décrit ce qui s'y trouvait, et cela lui paraissait si extraordinaire qu'elle avait décidé elle-même, pas ses ministres, mais une expédition au pays de Punt, en son nom, dans son temps, pour y laisser sa trace. Alors, elle a organisé cette expédition au pays de Punt avec tout le lustre qu'il fallait, avec le capitaine chargé de diriger l'expédition, les armées, le corps d'armée qu'elle avait formé pour que ce capitaine et la troupe soient utiles à conquérir un peu le pays sans difficulté, des artisans, des marins, énormément de marins, pour que ce pays de Punt devienne presque une colonie de l'Égypte. Et elle avait des idées de grandeur et en même temps de faste. Imaginez-vous qu'elle avait, pour l'arrivée au pays de Punt de cette expédition, qui était faite tout de même, pas si vous venez d'explorateurs, mais tout de même d'Égyptiens qui connaissaient un peu le pays de Punt, on avait envoyé des délégués. Elle avait organisé un protocole extraordinaire, à tel point même qu'elle avait écrit, enfin, et dicté le menu que les officiels de l'expédition devaient déguster en arrivant au pays de Punt. Et ce menu, elle l'avait tracé sur une des parois extérieures de la tente sous laquelle les officiers de la tente s'abritaient pour prendre le premier repas. Oh ça alors, c'est très curieux. Et tout ça, c'est écrit par Hatshepsut, car elle écrivait tout ce qu'elle voulait. Et elle écrivait le protocole d'arrivée.
Est-ce qu'il n'y a pas des notations pittoresques dans la description des habitants de Punt ?
Ah si, il y a une notation qui est d'autant plus drôle que les Égyptiens l'ont faite avec une certaine ironie et en même temps une certaine dévotion à ce personnage. En arrivant au pays de Punt, ils sont rencontrés des gens qui leur ressemblaient, les Puntites. Les habitants du pays de Punt, à part la mèche de cheveux ondulés qui était dans leur dos, étaient comme des Égyptiens. Mais ils avaient remarqué quelque chose qui les avait d'abord probablement, je ne peux pas dire choqués, mais profondément marqués. La reine de Punt était une espèce de monstre. Elle était énorme, adipeuse, très laide. Alors ils l'ont représentée telle qu'elle était. Ils n'ont pas oublié de la représenter. Elle avait une famille qui était à peu près correcte. Ils ont représenté les éléments de la famille qui venaient au-devant de l'expédition comme des personnages normaux. Mais la reine du pays de Pout, une espèce d'hippopotame féminin qui se baladait avec une suite, eh ben ils l'ont représentée telle qu'elle. Ça, ils savaient y faire. Et il y a une pointe d'humour là-dedans. Hein. Ils l'ont bien soignée.
Pour terminer sur l'humour à propos d'Hatshepsut, il y a dans la falaise de Deir el-Bahari un graffito qui semble bien évoquer les amours d'Hatshepsut et de Senmout.
Dans une grotte ouverte, pas très loin du temple de Deir el-Bahari, une grande hauteur, il y a une représentation où un personnage masculin chevauche élégamment un personnage féminin, et ça doit être Hatshepsut, qui est caressé doucement par l'architecte Senenmout.
Autrement dit, il soupçonnait des relations.
Il savait qu'il y avait une liaison entre la reine et son plus grand conseiller. Il n'y a aucun doute. Cette espèce de graffito qui est en même temps un dessin humoristique le prouve.
C'était à voix nue. Pascal Vernus s'entretenait avec Christiane Desroches-Noblecourt. Demain, le symbolisme dans l'art et l'architecture.